L'FM la plus musicale le matin.
Transistor.
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 Transistor. La journée de la radio fait son grand retour sur Transistor.
Transistor.
La journée de la radio, c'est le 13 avril sur Transistor, en direct toute la journée.
Vous appelez et vous raflez toutes les 10 minutes le double album de Serge Gainsbourg.
Que vous soyez partisan des ondes.
Est-ce que vous sentez les ondes?
Partisan du podcast.
Elles sont là, elles sont partout.
Oh non, pas ça.
Oh, elles sont dans les campagnes, dans les villes, elles sont sur les réseaux sociaux.
Eh bien, podcaster maintenant.
Le 13 avril de 7h à 19h.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors tout d'abord, Céline Aslo, Olivier Minot, est-ce que vous nous entendez bien?
Mais moi, je vous entends parfaitement bien.
Génial. Et Olivier Minot?
Ouais, moi, je vous entends, ouais.
Mais c'est parfait, on commence tout de suite. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Nicolas, ici Martin. Il est 17h, ça fait maintenant 10 bonnes heures que nous sommes en direct, mais nous sommes en forme, frais et dispo, ou au moins notre voix semble fraîche et dispo, et on est en votre compagnie jusqu'à 18h pour une troisième table ronde où l'on continuera avec nos invités de suivre le fil directeur de cette journée de la radio 2021 qui tourne donc autour des rapports de généalogie, de concurrence ou bien de perméabilité entre le monde de la radio et le monde des podcasts. Ce matin, Mathilde et Joséphine se sont demandé, en compagnie de Sylvain Gir et de Juliette Vauclair, si les podcasts étaient les nouvelles radios libres. En début d'après-midi, c'est Thomas Baumgartner et Marine Beccarelli qui étaient reçus par Clara et Lucas pour parler de l'expérience sensible du podcast. L'audio à la demande équivaut-il à de nouvelles pratiques, de nouveaux types d'écoute? C'est la question qu'ils se sont posées.
Mais en cette fin d'après-midi, c'est donc l'heure de la dernière table ronde de la journée et nous allons passer du côté de la production. La production des meilleurs podcasts sont-ils à la radio? Parce qu'on va le voir, les parcours de nos deux invités les ont amenés à la fois à explorer les côtés les plus institués de la radio FM, comme différentes bulles, différentes marges du milieu du podcast. Alors, qu'est-ce que la podcastisation de la radio publique comme privée a engendré comme changement de pratique de production, comme changement de pratique créative chez celles et ceux qui produisent ces contenus sonores? Comment se positionner en tant que créateur, en tant que créatrice, par rapport à ces évolutions? Quelle voie suivre? Est-ce la panacée de transposer la rigueur et les moyens des grandes institutions de la radio dans les podcasts?
Pour répondre à ces questions, nous avons donc avec nous Céline Aslo. Céline Aslo, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes journaliste.
Merci de votre invitation.
Mais de rien. Le plaisir est partagé, je crois. Je crois qu'on l'entend. Vous êtes journaliste à France Info depuis la fin de vos études de journalisme, donc au milieu des années 2000. Et vous êtes également, depuis 2020, productrice et présentatrice du quart d'heure nouveau podcast des rédactions de Radio France.
Et nous avons aussi Olivier Minot avec nous. Bonjour Olivier.
Salut.
Merci d'avoir répondu positivement du coup à notre invitation. Vous êtes comme nous lyonnais, vous avez une quarantaine d'années. Olivier Minot, aka Livo ou Livoson, et vous produisez chaque semaine sur Arte une revue de presse sonore, une revue de presse originale intitulée Dépêche. Vous produisez dans le même temps des documentaires pour Les Pieds sur Terre sur France Culture et vous imaginez des émissions sur les radios locales comme Feu Méga Gombi sur Radio Canu. Vous êtes un adepte et un défenseur de la FM et vous tenez d'ailleurs toujours une émission hebdomadaire sur Radio Canu, la radio locale et militante lyonnaise, qui s'appelle Micro-Sieste, tous les vendredis après-midi à 14h.
Bon, alors quand on a commencé à réfléchir à comment on allait organiser cette table ronde, on s'est évidemment d'abord penché sur les émissions qui avaient pu être à vous deux, vos sources d'inspiration, est-ce que vous écoutiez quand vous étiez jeune, etc., etc. Parce que pour vous deux, on s'en est rendu compte, la radio comme forme et comme institution, c'est quelque chose qui vous a vraiment accompagné dans vos vies personnelles et puis professionnelles. Céline Aslo d'abord peut-être. Quel genre d'auditrice étiez-vous avant de vous-même produire? Est-ce qu'on aurait pu s'attendre à ce que vous preniez la direction que vous avez prise dans votre carrière, dans l'institution radiophonique, à travers vos goûts?
Ben, c'est une difficile question que vous me posez là. Moi, j'aurais tendance à dire que moi, j'ai toujours adoré la radio. Voilà, de là à imaginer que j'allais passer mes journées dans la maison ronde, je ne suis pas sûre que je serais allée jusqu'à l'espérer quand j'étais petite et que j'écoutais France Inter sur l'autoradio de l'Axantia de mes parents. Mais en tout cas, non, j'adore la radio et j'ai toujours été une auditrice alors fidèle des antennes de Radio France. Ça, c'est une vraie tradition familiale et c'est ça aussi qui est marrant avec la radio, c'est que souvent, on grandit avec une tradition très forte. Il y a les parents qui écoutent Europe 1, ceux qui sont plus RTL, ceux qui sont plus France Inter, et ça nous nourrit aussi souvent. Moi, j'étais plutôt dans la team France Inter que j'ai écoutée depuis que je suis petite. Donc, j'ai un attachement très fort aux radios du service public. J'ai toujours trouvé que par la voix, on pouvait faire passer plein de choses, qu'on pouvait informer, qu'on pouvait émouvoir, qu'on pouvait surprendre. Enfin, j'ai toujours trouvé que c'était un média qui était très riche et très moderne, en fait, aussi, contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce qu'on se dit, c'est vrai que la radio, c'est un vieux média, et qui fonctionne un peu de la même manière qu'il y a un siècle. Et en même temps, c'est un média qui n'arrête pas de se réinventer. Et c'est ça qui est formidable, et c'est aussi ça que le podcast montre, mais on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine. Voilà, c'est un média à la fois très ancien et très moderne, à la fois tout simple et en même temps extrêmement riche. Et voilà, moi, c'est sûr que j'ai jamais cessé d'écouter la radio, et encore aujourd'hui, je passe. Voilà, c'est le premier truc que je fais quand je me lève le matin, c'est d'allumer la radio, et presque la dernière chose que je fais le soir, quoi.
Et vous, Livo, il me semble que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi énormément dans les interviews, notamment que vous avez données, dans les différents articles qui vous ont été consacrés. La radio est quelque chose qui vous a accompagné dans votre vie, presque, qui a un aspect presque biographique en fait pour vous.
Ouais, moi j'ai commencé à faire de la radio très jeune, donc dès le collège j'ai voué tout mon rêve radiophonique, toute ma vie à ce rêve radiophonique. Donc un petit peu comme Céline, moi aussi je suis un enfant d'une famille France Inter, ce qui fait que j'ai cette culture. Je pense que je suis capable de réciter les grilles d'Inter depuis 1993, mais je suis aussi un enfant des années 90 de Fun Radio. Ça m'arrive encore d'écouter Skyrock. J'ai travaillé dans différentes radio FM, donc c'est aussi ma culture, la FM commerciale, et puis je pratique la radio libre aussi depuis que je suis au collège, et j'y suis très attaché. Donc moi, c'est ces trois aspects de radio, donc à la fois le service public, à la fois les FM musicales, et à la fois les radios libres. Moins les périphériques, que je connais peut-être un petit peu moins, Europe, RTL et compagnie, mais effectivement, moi, la radio, j'ai fait que ça pratiquement depuis que j'ai 15 ans. J'ai pas fait grand chose d'autre, à part des fêtes et un peu des voyages, mais sinon, effectivement, je suis un peu, j'aime bien me définir comme radiotiste. Je suis un peu un autiste de la radio. J'ai une vie qui est principalement fondée autour de ça.
Alors évidemment, voilà, quand on lit les articles qui vous sont consacrés, il y a un nom qui revient en particulier, Olivier Minot, c'est celui de Yann Parentoen, documentariste radio de la RTF à Radio France et de l'oreille en coin au papou dans la tête. On va écouter rapidement un extrait d'un documentaire réalisé par Christophe Raoult et Thomas Baumgartner, qu'on a reçu un peu plus tôt dans la journée, qui lui rend hommage.
Je fabrique, je suis à tous les niveaux, quoi. J'enregistre, je monte, je mixe. Parce qu'il y a une culture radiophonique.
L'impression d'en être un peu le gardien.
La radio a son histoire.
Yann Parentoen.
Et peu de gens considèrent ça quoi, comme peinture. Ils pensent que c'est un endroit où on vient parler. Je crois qu'il faut aussi des émissions parler, intelligente, érudite, c'est intéressant, mais la radio, l'essentiel de la radio n'est pas là, quoi. Pour moi, c'est l'expression, enfin, c'est... Elle n'est pas très reconnue par les médias, hein. On n'en parle pas, quoi. La radio est toujours considérée comme un faire-valoir pour les autres expressions. À la radio, on parle de télévision, on parle des chevaux, on parle du football. À la radio, on ne parle jamais de la radio, quoi, finalement. Moi, je rêve d'une émission, par exemple, d'information qui soit uniquement faite avec les sons. Parce que le son est d'abord une information.
Voilà, Yann Parentoen qui rêve d'une information qui soit faite uniquement avec du son. Il exprime un certain rapport, un rapport particulier à la radio. C'est un peu un emblème de la radio publique, hein, mais il incarne d'une manière très personnelle et artistique sa conception de la création radiophonique. Alors, dans quelle mesure, Olivier Minot, est-ce que s'inspirer de Yann Parentoen dans la création radio, c'est encore possible aujourd'hui ?
Bah, c'est encore possible parce que ce qu'il dit là, j'imagine, c'est un documentaire qui a été tourné il y a une vingtaine d'années, est toujours vrai. Tout ce qu'il dit sur la radio, on parle peu de la radio à la radio, on parle peu de la radio en général, c'est un faire-valoir, c'est encore vrai, alors que la radio reste encore aujourd'hui le média le plus populaire. Moi, j'aime bien dire que c'est un média de masse confidentiel, c'est-à-dire que c'est un média de masse et personne ne le sait, à part ceux qui prennent peut-être un peu trop la radio au sérieux. Et puis après, ça reste, en tout cas pour moi, celui qui a posé certaines bases techniques d'écriture sonore sur le rapport entre la mono et la stéréo, sur effectivement la place de l'environnement sonore qui est très important au-delà de la voix dans les documentaires, dans la création. Et puis effectivement, c'est quelqu'un qui a inspiré des générations et des générations. Tout à l'heure, vous demandiez les influences principales. Moi, mon influence principale, ça reste et ça restera toujours l'émission Là-bas, si j'y suis et Daniel Mermet. Mais Daniel Mermet a été formé à L'Oreille en Coin avec Yann Parantoen. Donc c'est vraiment une sorte de super daron de ceux qui font du son à Radio France encore aujourd'hui, je pense. Yann Parantoen.
Et dans quelle mesure on retrouve ces codes-là dans l'institution des podcasts? S'il y a une institution des podcasts, Olivier Minot?
Alors, je ne sais pas ce que c'est que l'institution des podcasts. En tout cas, je sais que Arte Radio, qui est née bien avant qu'on parle de podcast, revendique la filiation, revendique plusieurs filiations, mais en tout cas, Yann Parantoen a été un des repères principaux, de Christophe Roth, qui est le cofondateur d'Arte Radio, sur effectivement cette idée de paysage sonore en stéréo sur lesquels on vient poser des voix en mono. Donc si il y a une institution du podcast, on va dire que ce serait Arte Radio, et Arte Radio s'est fondée avec comme repère par Antoine. Je sais pas si je réponds bien à cette question.
Si, c'est assez clair.
Et du coup, vous, Céline Asselot, vous êtes aussi plutôt une enfant de la radio publique, mais dans quelle mesure vous vous identifiez à ce que dit Yann Parantoen dans cet extrait?
Ah ben moi, je trouve que ça me parle beaucoup ce qu'il dit, et d'autant que c'est une légende. Alors, à la maison de la radio, certes, mais même à l'école de journalisme, moi, je me souviens que c'était quelqu'un dont on racontait les anecdotes. Comment est-ce qu'il avait réussi à prendre du son en haut d'un phare? Vous imaginez le vent qu'il y a. Il n'y a rien de plus difficile à prendre comme son que le son du vent. Et on se racontait les trucs et astuces qu'il avait. Et à l'époque, il faut se rendre compte, alors je sais que ça fait un peu ancien combattant quand je dis ça, mais les nagras étaient à bande. Voilà, il fallait découper ses sons avec des ciseaux de coiffeur, coller ses bandes pour ensuite les recoller. Enfin voilà, on ne se rend pas compte aussi d'où vient la radio. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est extrêmement simple. Enfin, c'est pas si simple que ça, mais on a gagné quand même en facilité, en simplicité grâce au numérique, et on peut faire énormément de choses, mais on est aussi irrigué de ça, de l'époque où c'était de l'artisanat et où il fallait voilà, faire des trucs et astuces pour que ton micro prenne bien du vent, pour que ta bande soit bien collée à celle d'après quand tu fais un documentaire de plusieurs dizaines de minutes. C'était extrêmement compliqué. Donc il y a tout cet artisanat du son, alors que moi j'expérimente assez peu, hein, et je ne suis pas une reporter, je suis plutôt moi une présentatrice de formation et de métier, mais j'ai une immense admiration pour les gens qui font du documentaire radio, parce que c'est voilà, le son, c'est l'information, et l'information, c'est le son, c'est l'absence du son, c'est le silence, c'est la manière dont vous jouez avec les sons. Et moi, j'ai une admiration et un respect pour ce qu'il a apporté et toute l'école qu'il a créée derrière, qui voilà, que je trouve formidable, quoi. Enfin, c'est le plaisir de la radio, il est là aussi.
Et du coup, dans quelle mesure vous diriez que c'est encore possible aujourd'hui de respecter cette forme de maxime qu'il a donnée d'artisan du son, de tout faire tout seul, d'accompagner la production sonore du début jusqu'à la fin?
C'est encore ça, en fait. La radio, ça reste encore un média de l'artisanat, je trouve, par rapport à d'autres médias. Un journaliste, un reporter radio, il peut être envoyé tout seul au bout du monde, et avec sa valise satellite ou avec son téléphone portable maintenant, il va envoyer tout seul son reportage qu'il aura tourné, mixé sur son Agra ou sur son ordi, et qui passera à l'antenne. Enfin, c'est une petite magie, la radio, parfois. C'est encore le cas. Alors, des fois, on a plus de moyens, on a plus de temps, on a un réalisateur comme moi qui a pour métier le son, et c'est évidemment d'un immense confort. Mais la radio, parfois, c'est aussi ça, c'est du bric collage au bout du monde avec un agra, un ordi et un téléphone, et puis on arrive à faire des choses extraordinaires. Voilà, c'est je trouve qu'il y a encore ça. On travaille encore beaucoup seul en radio quand on est reporter, contrairement à la télévision, par exemple. Enfin, c'est un peu moins vrai maintenant parce qu'il y a des gens qui peuvent partir tout seul, mais je trouve qu'il y a encore ce côté un peu artisan de l'info qu'on a encore gardé en radio, et qui vient de là aussi.
Oui, j'y réfléchissais justement et j'avais une question pour Olivier Minot qui avait un lien fort avec ce que vous venez de me dire. C'est que vous, dans votre carrière, vous êtes quand même, dans une certaine mesure, distancié de l'institution radiophonique, enfin ce qu'on peut imaginer par institution radiophonique, c'est-à-dire des chaînes qui passent sur le FM pour avoir votre modèle de création. Vous découpez les sons seuls, vous faites tout de A à Z dans la chaîne de production de vos podcasts. Est-ce que, dans quelle mesure il a fallu vous distancier de cette institution-là, prendre votre indépendance pour faire ce que vous vouliez?
Alors moi, je n'ai pas pris mon indépendance. Je pense que je suis arrivé déjà dans l'institution avec une expérience indépendante d'avoir fait de la radio très tôt et d'avoir découpé très tôt et d'avoir appris la radio, non pas dans des institutions, mais comme on dit, de manière autodidacte, ce qui est un peu faux, ce que je n'ai pas appris seul. J'ai appris avec plein de gens différents en faisant dans différentes radios de manière informelle. Donc, je ne me suis pas distancié de l'institution. Et quand j'ai été... à France Culture, travailler une dizaine d'années au pied sur terre, j'ai aussi appris beaucoup de choses dans cette institution. Et aujourd'hui, effectivement, je fais beaucoup de choses tout seul, mais je crois qu'on n'est pas très nombreux à faire ça. Et je ne fais pas de A à Z, je crois que je fais de A à X, puis il y a quand même Charlie Marcellet qui fait un dernier coup de mix sur les dépêches le mercredi, donc qui quand même vient faire ce qu'on appelle en image de l'étalonnage, enfin, qui vient faire un petit coup de mix de l'égalisation pour qu'on entende bien des sons et qui rend tout ça encore plus joli. Donc c'est quand même aussi, il y a toujours quand même, notamment dans le monde du documentaire à France Culture, mais aussi à Arte Radio, il y a quand même une dimension qui reste assez collective. Les gens qui produisent des séries documentaires sur France Culture, ils sont, il y a un producteur, il y a un réalisateur, ils sont avec souvent une équipe de techniciens pour le tournage, ils sont avec des mixeurs pour le mix final. Enfin, c'est quand même un travail sonore qui est collectif et avec un savoir-faire à Radio France qui repose sur ses techniciens et réalisateurs, pour beaucoup.
Mais ce savoir-faire, justement, est-ce que vous n'avez pas l'impression que, dans une certaine mesure, il s'est démocratisé avec l'émergence et la circulation de connaissances sur le podcast? Peut-être d'abord Olivier Minot, puis Céline Asselot. Est-ce que vous avez l'impression que l'émergence du podcast comme concept, comme manière de faire de la création audio, ça a changé dans la manière dont on crée et dont on se place dans la chaîne de production de contenu sonore?
Je crois que ce qui a démocratisé l'accès à la création sonore ou à la radio élaborée, au fait qu'on bidouille, qu'on monte, je crois que c'est effectivement l'informatique. Effectivement, comme le disait Céline tout à l'heure, faire un montage à l'époque des bandes, un montage très élaboré comme on peut le faire aujourd'hui avec des coupes toutes les secondes pour un nettoyage parfait, c'était un travail artisanal de titan qui reposait sur un travail manuel de découpage de bandes avant. Aujourd'hui, c'est quelque chose de plus accessible. Moi qui suis pas du tout manuel, par exemple, je pense que j'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui à l'époque des bandes. Maintenant, quand j'écoute le paysage de podcast et même radiophonique, je suis pas sûr qu'on est dans une période qui met vraiment en valeur le son. Pas sûr qu'on est dans une période où on met en valeur des émissions élaborées parce que c'est des émissions qui coûtent cher. Enfin, on n'a qu'à écouter les antennes de Radio France où toutes les heures consacrées aux documentaires de création chaque année s'amenuisent, les moyens des antennes se réduisent, il y a eu des grèves pour ça, donc je suis pas sûr que, en tout cas, le son, la création sonore soit mise en valeur par l'époque d'aujourd'hui, que ce soit une époque qu'on qualifie de l'époque du podcast, mais pour moi, ça reste quand même un ensemble, ce qui se passe à la radio et dans le monde du podcast. Je ne vois pas de grande différence.
Et vous, Céline Asselot, est-ce que vous en avez vu une différence?
Alors moi, je suis d'accord avec ce que dit Olivier sur le fait qu'effectivement, le documentaire radio, ça coûte cher, on lui donne de moins en moins de moyens. Ça, c'est une réalité, et qu'on laisse un peu plus souvent la place à le talk, des choses qui sont moins coûteuses à produire. Ça, c'est une réalité dans le paysage radiophonique dans son ensemble, hein, j'entends. Après, je trouve qu'effectivement, il y a quand même quelque chose de la démocratisation, parce qu'on peut tous plus ou moins jouer avec les sons. Voilà. Même si on n'est pas un professionnel de la radio, même si on n'a pas appris à l'époque, il fallait, encore une fois, acquérir un savoir-faire, j'allais dire presque d'artisan, d'apprendre à monter les bandes, les trucs, les machins. Maintenant, on peut tous s'amuser avec le son, avec un smartphone, un ordi. Vous pouvez faire votre petit podcast si vous voulez chez vous. Et moi, je trouve ça formidable qu'on se réapproprie tous aussi le son. Voilà, c'est aussi ça qui fait, je trouve, la proximité qu'on a encore tous avec la radio, le son, les podcasts, c'est que voilà, c'est très accessible. Il suffit juste d'une voix qui vous parle et c'est déjà un peu de la radio, en fait. Alors certes, pas de la radio très élaborée, mais déjà, une voix qui vous dit quelque chose, c'est de la radio. C'est un média qui passe par la voix, donc c'est un petit peu de la radio. Et je trouve qu'il y a, il y a ça qui, justement, l'explosion des podcasts, alors ça va un peu dans tous les sens, il y a énormément de choses de qualité assez variable, forcément, dans une période d'explosion si forte. Mais moi, je regarde ça quand même avec... avec une certaine, alors j'allais pas dire émotion, ça fait un peu surjoué, mais je trouve ça vraiment, je trouve ça très enthousiasmant, en tout cas, qu'un média, encore une fois, si ancien que ça, tout le monde puisse se le réapproprier, en fait.
Et en parlant de radio qui vous parle, Céline Asselot, quand on vous a demandé ce qui vous avait inspiré et ce qui vous inspire récemment en termes radiophoniques, c'est ce genre de contenu que vous nous avez envoyé.
Rachel, I think I saw a calendar entry. For the 25th.
Yeah. Vax, baby, vax.
You must be excited.
Yeah, man.
It must be a life-changing day.
That's a good thing to put on the old calendar. Don't want to forget.
Democrats look for a way to pass President Biden's infrastructure bill.
Republicans, though, don't want to raise taxes on corporations to fund the $2 trillion plan, and they don't like the broad scope of the bill. Do Democrats have the votes to go it alone?
I'm Steve Inskeep with Rachel Martin, and this is Up First from NPR News.
More of Derek Chauvin's former co-workers are coming forward to testify against him. The trial in Minneapolis is re-traumatizing many.
After we get the verdict and we get this conviction, we'll be able to breathe.
How's the community there holding up?
Millions of Americans say they will not get a COVID vaccine.
Everyone knows someone in their life who is not willing to get vaccinated.
So how will that affect our ability to reach herd immunity? Stay with us. We'll give you the news you need to start your day.
Voilà, alors ça c'était Up First, un podcast de la NPR, une National Public Radio, c'est une radio américaine. C'est quel genre d'inspiration pour vous ça, Céline Asselot ?
Alors, c'est pas une inspiration personnelle, hein. C'est une inspiration, j'allais dire, professionnelle.
D'accord.
Moi, Up First de NPR, c'est quelque chose qu'on a beaucoup écouté quand on a imaginé le quart d'heure, parce que l'idée était de créer un podcast d'actu. Et que l'inspiration quand on parle de podcast d'actu, c'est forcément ce qui se passe beaucoup outre-Atlantique, parce que c'est là-bas où les podcasts d'actu ont vraiment explosé, aussi parce qu'ils n'ont pas du tout la même tradition de la matinale radio qu'on peut avoir ici, qui rassemble des millions d'auditeurs, que le paysage radiophonique est très différent aux États-Unis, et qu'ils ont réussi, je crois, avec le podcast d'actu, alors Up First de NPR marche bien, le Daily du New York Times, c'est encore celui qui marche le mieux. Et je crois qu'ils ont réussi à créer un petit peu ce qui existe chez nous depuis très longtemps avec la matinale radio, c'est-à-dire un rendez-vous avec un anchorman qui va vous parler dans votre cuisine et vous raconter l'actu, quoi. Donc c'est vrai que voilà, c'est pas quelque chose que j'écoute tous les jours, le Up First, mais je reconnais l'inspiration qui a été la nôtre d'aller chercher un petit peu ou d'aller regarder un petit peu ce qui se passe du côté des États-Unis.
Et comment je vous écoute, pardon.
Non, je vous en prie.
Non, mais j'allais juste vous demander comment elle vous est venue à vous. Quelle passerelle avez-vous réussi à trouver pour acquérir cette sensibilité à ce genre de programme ?
Moi, j'écoute plein de trucs, en fait. Voilà. Je pense que aussi peut-être parce que moi, j'ai un profil. Je travaille dans la même entreprise depuis que je suis sortie de l'école. Donc, je sais aussi que je suis très voilà, que j'ai un regard très Radio France. Et même plus particulièrement France Info, puisque c'est là où j'ai passé l'essentiel des dernières années. Après, je crois qu'il ne faut pas, il faut pas fermer le regard et se dire qu'il n'y a qu'une manière de concevoir la radio, l'actu, l'info, puisque moi, je suis quand même une journaliste d'info. Et que je trouve que c'est bien d'aller voir un petit peu comment on fait ailleurs. Moi, j'écoute pas mal ce que fait Radio-Canada, la RTS, et aussi ce que font les Américains. Et de temps en temps, on écoute un truc, on se dit « Ah tiens, ça c'est pas mal, ça faudrait que j'aille travailler ce qu'ils ont. » Alors, les Américains sont très forts, par exemple, sur ce côté très convivialité, on est tous autour de la table, on a une espèce de tu-vouvoiement très, très chaleureux. Et je me dis « Ah tiens, c'est pas mal, il y a des trucs que j'aime moi, hein, mais… » mais des fois, j'écoute des choses pour me dire ça j'aime moins, pour aussi, la radio, encore une fois, ça évolue tellement et tellement vite que ce que vous écoutiez il y a 10 ans est totalement ringard aujourd'hui et passerait pas du tout dans le ton, dans la manière de faire, et ce qu'on fait aujourd'hui paraîtra complètement ringard dans 10 ans, mais il faut continuer à écouter ce qui se crée à droite à gauche. Moi, je trouve que c'est aussi comme ça qu'on s'améliore et qu'on continue à apprendre.
Oui, parce que vous avez fait la distinction entre une source d'inspiration personnelle et une source d'inspiration professionnelle. Enfin, qu'est-ce que vous entendez en fait par là ?
C'est-à-dire que je n'écoute pas Up First le samedi matin pour me défendre aussi, je ne sais pas. Non, mais voilà, moi j'écoute, il y a des choses que j'écoute plus pour le plaisir, des choses qui ne sont pas forcément des choses d'actu, d'info, parce que je baigne dedans moi déjà toute la journée, donc je vais écouter des choses un peu différentes. Après, voilà, là c'est une source d'inspiration professionnelle dans le sens où ça fait partie des choses que j'ai écoutées pour réfléchir à ce que pourrait être le quart d'heure, ou en tout cas ce qu'on pourrait nous proposer aux auditeurs comme nouveau format, en tout cas en essayant de renouveler un tout petit peu les codes ou le genre du podcast ou de l'émission d'actu, quoi.
Après, il faut préciser quelque chose, c'est que vous, quand vous travaillez à France Info avant de produire le quart d'heure, parce qu'on va expliquer, on va expliquer en détail que le quart d'heure, c'est un podcast qui n'appartient pas exactement à France Info, mais à Radio France. Mais avant cela, vous étiez journaliste spécialiste des médias. Vous pensez que cette sensibilité-là, elle vient du fait que vous étiez spécialiste des médias ?
Oui, je pense qu'il y a forcément un peu de ça. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était... couvrir les médias, alors c'est marrant, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la radio parle beaucoup des autres et la radio parle aussi beaucoup de ce qui se fait à la télé, de ce qui se fait dans les journaux, et moi j'étais journaliste média donc pour l'antenne de France Info pendant plusieurs années, et mon boulot c'était justement de regarder comment les médias évoluaient en France et dans le monde, donc je regardais beaucoup les chaînes étrangères, les journaux, je comparais les unes, je comparais le traitement médiatique de telle info, d'un journal à l'autre, d'une radio à l'autre, d'un pays à l'autre, et c'est hyper intéressant aussi, parce que par les médias, on apprend aussi beaucoup de choses sur la culture, ou les attentes d'un pays, ou d'une population, donc je pense qu'il y a un peu de ça que j'ai gardé, c'est-à-dire l'appétence d'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs, je trouve que c'est toujours intéressant, encore une fois, on n'est pas obligé de tout aimer, on n'est pas obligé de s'inspirer de tout, mais je trouve qu'on gagne toujours à regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs.
Et Olivier Minot, dans Dépêche, vous avez aussi une manière très personnelle d'aborder l'actualité. Et d'abord, dans un premier temps, qu'est-ce que vous retenez de l'actualité dans une capsule de 7 à 9 minutes ?
Ah bah ça, il faut demander aux gens qui écoutent qu'est-ce qu'ils retiennent de cette capsule. Moi, j'essaye de faire effectivement Dépêche, il y a différents épisodes et différentes manières de faire, mais généralement c'est de faire soit un dessin de presse un peu plus long, soit un petit instantané, un petit résumé de ce qu'on entend dans les médias, soit de faire un sujet à côté, mais en tout cas c'est effectivement, moi Dépêche, j'aime bien dire que c'est un dessin de presse sonore, avec une blague, avec quand même un sens, en essayant d'avoir une sorte de question un peu pertinente qui va au-delà de ce qu'on nous raconte déjà, en tout cas d'essayer d'interroger les gens là-dessus. Presque ce qui en ressort, il faut demander aux gens qui écoutent. Moi, j'en sais rien.
Pour être tout à fait honnête avec vous, on a hésité à passer dans cette table ronde le centième épisode de Dépêche où vous demandiez à des passants et à des passantes dans la rue s'ils ou elles connaissaient Dépêche. Et effectivement, on peut pas forcément dire que Dépêche est une œuvre pop. Enfin, on peut pas nier non plus qu'elle possède une certaine influence à travers son style dans le monde de la radio. Et d'ailleurs, je tenais à vous dire que Céline Aslo nous a dit connaître et beaucoup aimer quand on l'a contacté. Je vous propose d'écouter ce morceau de Dépêche.
Salut, c'est Livo et je découpe la radio avec mon micro.
C'est Dépêche.
Télérama, festival longueur d'onde, à Brest, la radio bat son plein.
Putain, il y a toute la team, salut.
Alors le festival longueur d'onde à Brest en février, c'est le moment où se réunit la grande famille de la radio. La grande famille de la radio, c'est un peu comme la grande famille du cinéma, je pense.
Non, j'ai acheté.
Ce sont des gens poussés par une passion commune qui est tellement forte qu'elle les place au-dessus de quelconque médisance.
Alors, c'est quelqu'un pour qui j'ai une aversion profonde.
Ici, on s'aime.
Clairement, tout le monde la déteste.
Et ça s'entend.
Parce qu'elle tyrannise les gens, je crois.
Ici, pas de fausse mondanité.
C'était tout pourri, c'était complètement de l'entre-soi, ils s'adressaient à personne, ils étaient entre eux.
Que de la bienveillance.
J'ai trouvé ça nul, vraiment, j'ai trouvé ça. Blabla, déconnecté.
Bref.
La trigne est dégueulasse. Avant, c'était.
Vous l'avez compris, dans la grande famille de la radio, on est des gros crevards.
Moi, je voudrais dire du mal du jury des pitchs de ce matin. On pouvait venir pitcher notre projet radio.
C'est-à-dire quoi pitcher ?
C'est-à-dire résumer de manière sexy et commercialisable auprès du jury qui était donc surtout composé de gens de studios de podcast.
Ils rêvent de succès, ils attendent la gloire, ils sont 16 à vouloir devenir stars. Travail, rigueur, précision, sous vos yeux, ils vont devoir tout donner.
Et donc il y avait 7 minutes pour présenter son sujet, au bout de 6 minutes, dring, il y avait la sonnette. On avait l'impression d'être dans un espèce de TV show où le but c'était de vendre son sujet en un minimum de temps avec un maximum de sexiness.
Podcast Academy, toi aussi deviens une star de l'audio.
Exactement, la starak du podcast, c'est qui ?
Dépêche.
Donc c'était un extrait de Dépêche, c'était pas le 100e épisode où vous interrogiez des passants et des passantes au hasard, mais un extrait d'un épisode que vous avez réalisé à Longueur d'onde, donc le grand festival radio qui a lieu chaque année, sauf cette année, tous les ans à Brest. Et dans cet épisode de Dépêche, vous relatez un certain rapport à la radio, vous donnez votre ressenti du rapport à l'évolution radio-podcast, à comment ça se start-upise dans un certain sens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ça ?
Bah, c'est un épisode effectivement un petit peu particulier, un peu plus private que les autres, puisque effectivement c'est un podcast qui parle de nous dans un festival de la radio, et comme on l'a dit, la radio généralement on n'en parle pas. Mais pour rebondir sur l'idée d'une start topisation de la radio, en tout cas quand on parle du monde du podcast, les studios de podcast, c'est classe de dire studio de podcast, mais il s'agit bien de start-up, hein. Il s'agit de start-up qui ont un financement, qui pour certaines appartiennent à des grands groupes comme LVMH. Donc on est dans une économie qui est une économie capitaliste très actuelle, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais en tout cas bien souvent c'est ce qu'on appelle des start-up, quoi. Ce sont des gens derrière des ordinateurs qui ont des plans marketing.
Et d'un autre côté, dans cette dépêche, vous avez une façon très, enfin, qu'aujourd'hui on lit beaucoup au podcast, très personnelle d'aborder la chose, mais il me semble que vous avez aussi une vision de cette évolution qu'on lit souvent au podcast, le fait d'hyper personnaliser et de mettre beaucoup en avant le jeu, que vous avez une vision de cette évolution qui n'est pas celle qu'on retransmet d'habitude dans les médias. C'est-à-dire que...
Alors, je sais pas ce que...
Non, mais la question derrière, c'est un petit peu... On fait le lien, on vous rapproche à ce qui est produit en ce moment dans les studios de podcast, et on se demande si, dans une certaine mesure, vous n'avez pas un peu podcastisé un exercice finalement très classique, qui est la revue de presse, et si vous n'avez pas exporté un style institutionnel, Radio France, avec cette rigueur, avec ces codes-là, mais à la sauce podcast.
En tout cas, je ne sais pas ce que vous vouliez dire avec le jeu. Il y a deux choses, mais je crois que vous en avez parlé ce matin avec Juliette Volclair et Sylvain Gire. Je crois que ce qui est intéressant dans le jeu, en tout cas moi je pratique le jeu à la première personne, dans le sens où moi je crois à un journalisme incarné, je ne crois pas du tout à l'objectivité des journalismes. C'est quelque chose que je combats, je pense, qui est néfaste même sur la qualité de l'information. C'est-à-dire que je pense que moi, les auditeurs et auditrices qui écoutent des pêches ou qui écoutent une émission, ils savent situer d'où vient cette émission. Ils peuvent se positionner sur les propos qu'on va produire par rapport à la position dont on parle. Donc le jeu est intéressant là-dessus. C'est différent que quelqu'un qui va faire une revue de presse à la radio et qui va prétendre lire tous les journaux du monde et en présenter sans dire « je » quelque chose qui serait objectif, alors que lui aussi il est évidemment subjectif. Ensuite, effectivement, aujourd'hui, il y a une sorte de mode, en tout cas de technique de narration qui dit « il faut dire « je », et qui devient une sorte de truc un petit peu tarte à la crème, comme disait Juliette Volclair ce matin, et qui des fois, c'est pas un jeu qui est forcément sincère, c'est plutôt une sorte de technique d'écriture, et des fois il en sort pas vraiment grand-chose, et ça peut être aussi critiqué.
En parlant du jeu, en parlant de cette technique d'écriture, je vous propose d'écouter cette fois un extrait d'émission produite par Céline Asselot, évidemment, Le Quart d'heure.
Jeudi 1er avril, aujourd'hui je me dis que le poisson d'avril, ça doit être un truc du monde d'avant. Un truc de l'époque où on avait envie de se faire des blagues, alors que l'ambiance est plutôt morose aujourd'hui. On tente de comprendre comment va fonctionner ce confinement qui n'en est pas vraiment un.
Oui, c'est un mauvais poisson d'avril. Et le poisson d'avril, comme tous les poissons, pourrit par la tête.
Je vous emmène aussi en Birmanie. Deux mois après le coup d'État, les manifestations se poursuivent malgré la répression de la junte militaire. Il y a dans le mouvement de désobéissance civile une résistance, je dirais, quasiment viscérale. Et puis c'est la nouvelle tendance dans le monde de l'art. Acheter des œuvres qui n'existent pas. En tout cas, pas dans la vraie vie. Certains collectionneurs sont prêts à dépenser des millions pour des œuvres virtuelles. Bienvenue, je suis Céline Asselot. Et c'est parti pour le quart d'heure. On ne s'en lasse pas, visiblement, de nos tête-à-tête avec Emmanuel Macron. Hier soir, nous étions encore 31 millions à passer la soirée avec le président. Pourtant, vous allez me dire, c'est à chaque fois la même histoire. Restrictions, efforts, mauvaises nouvelles. On commence à avoir l'habitude. Mais si on y regarde de plus près, la tonalité était différente cette fois. Souvenez-vous, l'année dernière, il n'y avait pas beaucoup de nuances.
Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés.
La fermeture, à compter de ce soir minuit, de tous les lieux recevant du public.
Nos déplacements seront très fortement réduits.
Pour promener ses enfants ou pour faire du sport, ça doit être dans un rayon de 1 km de chez soi, au maximum pour une heure.
Alors qu'aujourd'hui, on sent que l'exécutif tente de marcher sur un fil ténu.
Voilà Céline Asselot, voilà un exposé d'à quoi ça ressemble le style de production du quart d'heure qui sort tous les jours sur l'application Radio France, mais aussi sur les plateformes de podcast et les plateformes de streaming. J'ai une question très simple, comment ça s'est fait que ce style s'est retrouvé dans les papiers des producteurs et des personnes qui dirigeaient les programmes à Radio France ?
C'est une très bonne question. Je ne sais pas comment ça s'est retrouvé dans les papiers de tous les producteurs. Je ne voudrais pas répondre pour tous les producteurs.
Non, pas tous les producteurs, mais des personnes qui réfléchissaient au programme et à la manière dont on pouvait créer du nouveau programme. C'est ça que je voulais dire.
Ah oui, alors moi je peux vous dire pourquoi nous on l'a choisi pour le quart d'heure. Après, je pense qu'il y a plein de raisons effectivement d'aller chercher du côté du jeu. D'aller explorer cette piste-là. D'abord parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est presque du goût de l'interdit, en fait. C'est marrant parce que moi, ça fait 15 ans que je fais de la radio, je n'ai jamais dit jeu à l'antenne. Parce qu'on se dit souvent, et je pense que c'est un peu la manière dont on faisait de la radio quand moi je l'ai apprise, c'est-à-dire on s'efface un peu derrière l'info. Surtout quand on fait de l'info, c'est un peu moins vrai quand on fait d'autres types d'émissions. Quand on fait de l'info, c'est l'info qu'il faut mettre en avant, il faut être effectivement dans une objectivité parfaite. Et tout ce qui est de l'ordre de la personnalité ou de la subjectivité du journaliste n'a rien à faire là, ou en tout cas va venir polluer le message. Donc ça, c'était un peu ce dont on... Voilà, c'était presque la doxa quand moi, je suis devenue journaliste. Et je crois qu'on est sorti de ça, on a en tout cas réfléchi à sortir de ça, à se dire qu'on pouvait assumer une part de subjectivité, alors tout en gardant, je crois, j'apporte une petite nuance de mon point de vue sur ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est-à-dire que l'idée n'est pas de dire voilà ce que je pense et débrouillez-vous avec ça, et vous savez ce que je pense et vous l'écoutez en toute connaissance de cause. On essaye en tout cas de garder une forme de neutralité sur les sujets d'actu que l'on présente. Après, effectivement, moi, je creuse le sillon de la subjectivité, du regard subjectif, même si c'est un jeu qui veut aussi beaucoup dire nous, en fait. Moi, j'utilise le jeu pour dire tu, en fait, aux gens qui m'écoutent, pour me dire, voilà, quand moi, j'étais devant Macron l'autre soir, tu y étais aussi, et voilà ce que j'ai pensé, et peut-être que c'est ce que tu t'es dit aussi, et on va essayer d'y réfléchir ensemble, en fait. C'est plus un jeu, j'allais dire, de la complicité plutôt qu'un jeu moi, ma petite personne, est-ce que je pense de l'actu, en fait. Alors après, là aussi, c'est un fil ténu sur lequel il est difficile de marcher, parce que entre la subjectivité, la neutralité, l'objectivité, jusqu'où aller, jusqu'où le jeu est intéressant, jusqu'où il devient effectivement artificiel, à partir de quand il devient artificiel, c'est une vraie réflexion. Et je pense qu'on n'est pas collectivement au bout de cette réflexion-là. Mais moi, ça m'amuse beaucoup, en fait, surtout que je ne l'avais jamais fait avant, et ça a été un peu me faire violence au début que de dire jeu, mais j'y trouve un certain... Je trouve que c'est très ludique, pour le coup, c'est un jeu J-E-U de parler au J-J-E, quoi.
Justement, explorons un peu ce chemin du jeu au-dessus. Votre idée, c'est de s'adresser à qui dans le quart d'heure ?
Alors, nous, l'idée, c'est de dire, je vais raconter l'actu à ceux qui n'ont pas forcément envie qu'on leur raconte de la manière traditionnelle. Alors, évidemment, il y a quelque chose d'un peu générationnel, parce qu'on a essayé de se dire, voilà, est-ce qu'on va essayer de chercher à parler à des gens un peu plus jeunes que le public des antennes de Radio France, parce que comme beaucoup de médias, les antennes de Radio France ont aussi un public qui vieillit, et qu'il faut essayer de réfléchir à la manière dont on... ou à des futurs auditeurs, ou à des jeunes citoyens qui n'ont pas forcément l'habitude d'allumer la radio à 8h le matin pour écouter ce qui se passe dans le monde. Donc l'idée, c'est de dire, on va jouer avec les codes, on va essayer de ne pas... de rester sur la même exigence de fond, hein. Il s'agit toujours d'informer, et c'est un vrai rendez-vous d'information, pour le coup, d'actu, quoi, j'assume. Donc c'est... Quand l'actu est morose, on est... voilà, on va pas faire que des blagues, parce que malheureusement, l'actu est beaucoup morose, donc on n'a pas que des bonnes nouvelles à donner, mais d'essayer de dire, on va essayer de le raconter autrement, de jouer un peu plus avec le son, de jouer justement un peu plus avec ce que... Voilà, ce que l'actu fait résonner chez nous, de la manière dont on vit aussi dans ce monde un peu différent qu'est le nôtre depuis un an. Enfin voilà, d'essayer de mêler de la subjectivité et de l'info, et d'essayer d'aller parler à des gens qui n'ont pas forcément d'appétence pour les rendez-vous d'actu traditionnels.
Et Céline Asselot, mais je pourrais poser en fait la même question à Olivier Minot. Cette utilisation du jeu, cette sorte de théâtralité, de mise en scène qui est utilisée dans beaucoup de podcasts et dans les vôtres, pour Céline Asselot, 15 minutes tous les jours, pour Olivier Minot, 10 minutes par semaine. Est-ce que cette théâtralité à long terme n'est pas difficile à tenir ? Comment on arrive à se renouveler à la longue en utilisant ce jeu ?
C'est une très bonne question. Ouais. C'est une très bonne question. Moi, je ne fais le rendez-vous quotidien que depuis quelques mois. Alors, je ne suis pas du tout au bout. Je suis loin d'avoir exploré tout ce qu'on peut faire avec ce type d'écriture. Après, il y a un côté théâtralisation, c'est vrai, parce que je pense qu'il y a une part de personnage. Après, moi, je mens assez rarement dans le podcast, en fait. Je parle de ma grand-mère, je parle de mon enfance. Voilà. En fait, on peut toujours créer des ponts entre soi et l'actu, en fait. C'est ça, moi, que je trouve assez passionnant, en fait. C'est que, voilà, la semaine dernière, on faisait un sujet sur la commémoration du début du génocide au Rwanda. Donc, a priori, rien à voir, moi, avec mon histoire. Et en fait, j'ai choisi de mettre un reportage de Nicolas Poincaré, qui date de 94, que moi, j'avais écouté quand j'étais petite et qui m'avait bouleversée et qui m'avait donné envie de faire de la radio. C'était un reportage à Kigali absolument remarquable. Et en fait, j'ai choisi ce reportage-là parce que je me souviens que moi, ça m'avait touché ce jour-là et à l'époque. Donc, je crois qu'on peut toujours trouver des ponts, en fait. Après, il faut peut-être, effectivement, ne pas être trop dans la théâtralisation. Et c'est là que c'est pas toujours facile de trouver le juste milieu. Et je dis pas du tout que moi, j'ai trouvé le juste milieu. Au contraire, on est encore, nous, dans une phase d'expérimentation où des fois je tente des trucs, puis ça marche pas, et puis le lendemain je me dis, ah ben, je vais faire autrement parce que ça c'était pas la bonne idée. Voilà, moi, ça aussi que j'aime, contrairement à ce que je faisais avant, c'est que là on est dans un endroit où on teste plein de choses et plein de formats différents, et se dire, bon, bah voilà, ça marche moins, et demain on fera autre chose, quoi.
Et vous, Olivier Minot, avec Dépêche?
Le renouvellement, je crois pas que le fait de se renouveler c'est un vrai problème, mais avec ou sans jeu, j'ai envie de dire. Moi, si j'essaye dans Dépêche que ça évolue, si on réécoute les Dépêches, les premières d'il y a 2-3 ans, finalement ça a beaucoup changé sur la manière d'écrire et la trame narrative, même s'il y a toujours le jeu. Donc, parce que c'est quelque chose qui évolue avec le fil du temps, mais effectivement, si on reste toujours surtout sur une revue de presse ou quelque chose d'actualité où les choses reviennent sans cesse. Il n'y a pas longtemps, je faisais une dépêche sur les un an du Covid et du confinement. Effectivement, j'ai pris des petits extraits sonores du film Un jour sans fin, parce que ça fait un an qu'on est tout le temps dans les mêmes, qu'on entend les mêmes choses. C'est ce qu'on entendait dans le petit extrait aussi du quart d'heure de Céline. C'est que ça fait on a tous les jeudis à 20h un personnage politique qui vient nous dire des trucs qui varient peu. Donc effectivement, il faut essayer avec ça. Moi, j'essaye de varier les formes entre le micro-trottoir, la parodie, mais je pense que la question du renouvellement dans une sorte de création sonore, elle est, c'est un vrai problème de créativité, avec ou sans jeu en tout cas.
Finalement, ce qui est constant quand même, j'aimerais bien juste une dernière question sur le jeu, peut-être Céline Aslo. Il y a quand même dans la culture podcast un certain culte de l'auteur, culte de l'autrice, on le met beaucoup au centre du podcast qu'il ou elle produit. Enfin, évidemment, ça émane du fait qu'on utilise le jeu dans l'actu. Mais est-ce que tout cela, c'est pas aussi une manœuvre volontaire ou non, consciente ou non, de mise en scène poussée par les studios de podcast et dans une certaine mesure aujourd'hui poussée, on le voit, par la radio publique qui veulent ouvrir leur podcast, leur programme à une certaine audience en les incarnant.
Alors, je ne crois pas du tout qu'on ait été les pionniers ou les précurseurs de ça. Enfin, voilà, encore une fois, si vous regardez les Américains, Michael Barbaro dans le Daily le fait depuis des années. Il commence tous ses podcasts en disant « Ah, il y a Michael Barbaro, oui, this is the Daily », avec mon superbe accent anglais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être quelque chose que on s'est dit que le podcast, ça devait être comme ça. Alors peut-être c'est à tort, et Olivier a raison, les formats ils vont changer, les années vont passer, on va tester d'autres choses parce qu'on se sera lassé, parce qu'on aura peut-être lassé les auditeurs aussi de faire un peu tous, parfois de prendre les mêmes ficelles, mais en même temps c'est normal. Enfin voilà, on teste des trucs, on tente, il y a des modes, comme dans tous les médias, comme dans tout en fait, il y a des moments où on teste plus des choses, et puis il y a les précurseurs, et puis il y a les suiveurs, et puis après on va retester un autre truc, et puis c'est pas très grave en fait. Je trouve que pour le coup, j'y vois pas ce que vous appeliez, je sais pas, une tentative inconsciente. Je pense que c'est plus simple que ça. C'est de dire aussi que voilà, c'est un sillon qu'on a creusé et qu'on en creusera d'autres comme on en a creusé d'autres avant, et que peut-être on se lassera du jeu comme on s'est lassé d'autres choses. Il y a des choses qui se font plus du tout, que vous écoutez, qui se faisaient à la radio il y a 20 ans, qui se font plus du tout et qu'on trouve ça super ringard, et peut-être ça sera la même chose avec ça. Après, je pense encore une fois que c'est parce que c'est une terra incognita, qu'on est tous allés essayer d'autres trucs et qu'on est allés aussi avec plus de personnalité, avec la volonté d'apporter plus de nous-mêmes aussi dans des émissions, parce que peut-être on n'osait pas le faire à la radio classique avec plein de guillemets, et que du coup on est tous peut-être allés trop là-dedans, hein. C'est peut-être une facilité au bout d'un moment, mais je pense que les auditeurs font leur tri aussi, et puis si ça voilà, s'ils sont lassés de ça, c'est pas très grave et on réinventera autre chose, quoi.
Mais pour autant, on ne peut pas s'empêcher de se demander si les institutions qui vous offrent les moyens de produire ce genre de podcast-là vous donnent les moyens pour le faire. On a entendu, alors vous, c'est peut-être une question un peu polémique, vous y répondrez vraiment de manière ultra libre, on a entendu quand même des propos émanant du syndicat des journalistes de Radio France dénonçant le manque absolu de moyens en ressources humaines, en salariés, comme en infrastructure destinée à cette podcastisation. Est-ce que vous le ressentez, ce manque ?
Alors moi, je suis plutôt, j'ai plutôt une chouette équipe, hein, pour faire le podcast, et je sais bien que beaucoup de mes confrères et consoeurs n'ont pas la chance qu'on a, nous. Certes, on fait une quotidienne, donc on a un gros rythme de travail, mais on est quand même 5 pour le faire tous les jours, ce qui est quand même très confortable, et je le sais, je le reconnais par rapport à d'autres émissions qui se font dans des conditions de confort bien moins bonnes que les miennes. Après, la question que vous posez, je pense que c'est une question plus large, c'est-à-dire c'est ce qu'on disait un peu sur les documentaires aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que le budget de la radio est constant, que la période est plus aux réductions de moyens qu'à l'augmentation, hein, parce que c'est un budget qui est décidé, on est financé à 95% par la redevance, et celle-ci n'augmente pas, et la part qui est attribuée à Radio France a même tendance à se réduire au cours des dernières années. Il a fallu qu'on fasse des économies comme plein d'autres entreprises publiques, et qu'à côté de ça, il faut continuer à ne délaisser aucune priorité, aller chercher les auditeurs là où ils sont, mais là où ils seront aussi demain, c'est-à-dire à continuer à faire de l'info locale, de l'info nationale, d'aller aussi faire du podcast pour pas laisser la place à d'autres startups, comme on disait tout à l'heure, ou à d'autres producteurs de podcasts, parce qu'il faut pas délaisser ça. Et que du coup, effectivement, ça veut dire qu'il faut faire tout ça avec avec des moyens qui, eux, n'augmentent pas. Donc ça peut donner un peu le sentiment, parfois, de devoir trouver la martingale pour faire mieux avec moi. Ça, c'est sûr. Après, je suis pas sûre que les podcasts soient les seuls à pâtir de ça. Voilà. Je pense que c'est le paysage radiophonique aujourd'hui n'est pas un paysage où les gens ont de plus en plus d'argent. Je pense bien au contraire, quoi.
Justement, nous allons écouter un podcast de la RTS qui montre un peu à quel point le genre s'est démocratisé aujourd'hui, mais qui pose d'un autre côté la question de la mesure dans laquelle un contenu entre deux tient la route quand il est produit par des institutions radiophoniques qui ne fournissent pas les moyens suffisants pour la produire fréquemment.
Hey, salut, ça va ?
On est laissé face à soi-même et pour moi, cette mise en abîme hein, du vide, elle était importante à exprimer vraiment physiquement et de donner cette occasion d'entrer dans un espace nu, le short.
T'as pas tout compris ? Moi non plus, hein, je te rassure, mais en gros, ce que veut dire la directrice du musée des Beaux-Arts du Locle, c'est que l'expo qu'elle propose en ce moment, c'est rien, du vide. Aucune œuvre sur les murs, que dalle. À part quelques tablettes qui diffusent des vidéos d'artistes en plein travail, c'est une façon de matérialiser l'absence de culture en ce moment à cause du Covid. Alors véritable manifeste ou gros foutage de gueule, à toi de juger, ce grand vide est à voir au musée des Beaux-Arts du Locle jusqu'à dimanche.
Et ça c'est...
Putain, attention, on touche pas, c'est un monochrome de White Man. Oh. Une fortune ça.
Ah oui.
Et face au grand vide de culture, de loisirs, de sport, de sorties, de contacts et de cours en présentiel, l'Union des étudiants de Suisse lance une nouvelle fois un appel aux autorités, hautes écoles, confédérations, cantons, avec 19 revendications parmi lesquelles...
Des accès à des services de conseil à bas seuil, des offres en ligne pour l'interaction sociale, une ouverture d'installations sportives en ligne ou en plein air, pour vraiment il y a de nouveau un contact entre les étudiants et étudiantes, un petit air de normalité.
Dixit, Laurent Veufray, membre du comité de l'UNES.
Alors voilà, l'idée de cet extrait, c'était juste de montrer à quel point ce genre s'est démocratisé dans des radios publiques un peu partout dans le monde, bon, au moins dans le monde francophone. Mais ce que je voulais savoir, peut-être Olivier Minot et Céline Asselot, parce qu'on parlait de moyens, mais il s'avère que l'un comme l'autre, vous avez les moyens pour produire ces podcasts-là. Où est-ce que vous les voyez évoluer, ces formats-là qui durent donc entre 3 et 10, 15 minutes, Olivier Minot peut-être?
Alors, moi, j'ai une très faible culture podcast, comme on dit, puisque moi, j'écoute énormément la radio et j'habite dans une grande ville comme Lyon où la bande FM regorge de création de 0 à 120 minutes. Je fais partie d'une radio qui s'appelle Radio Canu, sur laquelle il y a 50 émissions qui sont toutes d'une certaine manière très créatives. Donc, j'ai peu de références sur ce qui se produit en podcast natif. Comme on dit. Moi, j'écoute beaucoup des documentaires, soit en replay de France Culture ou tout ce que produit Arte Radio, mais après, sur le reste, j'avoue que je pêche un peu là, sur cette question.
Et du coup, notre table ronde tire un peu sur la fin. Pour finir la table ronde et ouvrir un peu sur la question de cette institution aussi, qu'est la radio et que demeure la radio aujourd'hui avec le poste et les ondes, on va écouter un extrait de la méga combi qu'on est allé chercher, qui est une version alternative d'un documentaire de Livo qui a été primé et qui a été diffusé dans sa version alternative sur les ondes de Radio Canu dans la méga combi.
C'est le prime time de méga combi
Non, je crois que c'est la prime team de méga combi, non? À 18h ce mercredi.
Il me manque comme un repère. Septembre 2014, c'est le début de la saison radio. La première sans là-bas. J'y suis pas. Inter a toujours été ma radio du quotidien, celle imposée par mes parents, enfin surtout par mon père à la maison, et puis celle que petit à petit je me suis réappropriée, un peu comme une addiction.
Addiction sur France Inter.
Mais ces dernières années, j'avais tendance à la délaisser. Là-bas, si j'y suis, faisait partie des derniers remparts contre la zappitude totale d'Inter.
Je pense que c'est une bonne vision de la com.
Tous les jours à 15h, j'allumais les 8 postes de la maison. Je pouvais passer d'une pièce à l'autre sans louper une seule seconde. Ok, alors à 5:50 là, il fait un premier micro, un teasing.
C'était l'émission que je scrutais.
Il relance le répondeur à 7:10 et à 9:35. Il y a une accroche du reportage. À 11, il y a la moto.
La figure paternelle me manque.
50 Pfennig für ein Stück Mauer. 50 Pfennig. Die ganze Mauer zu 100 Mark zum Selbstabholer.
Mon père, il était prof d'allemand, passionné par la culture teutonne. En 89, grâce à l'antenne parabolique de son collège, il enregistrait toutes les émissions du monde qui parlaient de la chute du mur de Berlin. Et bien sûr, il écoutait cette nouvelle émission qui démarrait avec l'histoire, avec un grand H.
Bonjour, guten Tag. Willkommen in Berlin. Là-bas, c'est je suis.
Guten Tag les kikis, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
14h à l'époque, c'était l'heure où on pouvait pas du tout le déranger mon père. C'était Mermet. En plus son générique c'était son disque préféré, alors fallait vraiment pas l'embêter. C'était pas la seule émission comme ça.
Si ça termine le vrai faux journal de France Inter, nous...
La radio à la maison, ça prenait beaucoup de place, même pendant les records. Ma mère me raconte encore sa frustration de pas pouvoir s'exprimer parce que le père,
au sommaire ce soir,
il écoutait la radio.
Et donc, à côté de toutes ces considérations de production, la radio est aussi une institution, une forme de stabilité, un peu la raison pour laquelle la révolution ne sera pas podcastée. Et est-ce que cette stabilité est importante pour vous? Et surtout, est-ce qu'elle peut faire tenir des contenus comme les vôtres? Olivier Minot.
Alors, ouais, je suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais juste pour préciser, l'extrait que vous avez diffusé n'est pas du tout un extrait de Méga Combi, mais bien un extrait d'un documentaire produit par Arte Radio qui s'appelle Là-bas si j'y suis plus, où effectivement je revenais sur mon rapport à la radio, mon rapport à Là-bas si j'y suis, et qui était en fait une grande déclaration d'amour à la radio. Et voilà. Et du coup, la question c'était?
Et la question, c'était si la stabilité de l'institution radiophonique avait vraiment une importance pour vous, et est-ce que vous pensez qu'elle peut faire tenir des contenus comme les vôtres, en fait, comme Dépêche, par exemple?
Oui, bien sûr. En fait, à la radio, on a quand même un panel de choses qu'on peut entendre. Enfin, moi, comme je disais tout à l'heure, j'écoute beaucoup Inter Culture, mais j'écoute aussi beaucoup les radios libres. On a un panel extraordinaire, très très large, très très démocratique, je pense même encore plus que dans le monde du podcast, ou en tout cas tout autant. Enfin, moi je fais pas forcément de frontières entre les deux, donc pour moi la radio, on a prévu sa disparition depuis qu'elle existe, hein. La radio devait être effacée par le cinéma, puis par la télévision, puis par internet. Aujourd'hui, comme je le disais encore au dernier sondage, il y a encore 40 millions de Français de plus de 15 ans qui l'écoutent tous les jours. Donc je pense que la radio sera toujours là, et il y aura toujours des gens qui seront à l'intérieur de ces radios pour apporter des nouveautés, pour renouveler les choses et les manières de la faire.
Et vous, Céline Aslo, parce qu'évidemment, vous vous situez en même temps à l'intérieur de la Maison Ronde, vous y êtes toujours, et en même temps un petit peu en marge. Je voulais savoir où est-ce que vous vous situiez par rapport à l'institution radio, la mère radio, parce que, donc, pour préciser, donc, on l'a déjà mentionné, mais votre podcast, il ne dépend d'aucune radio précisément, il dépend de Radio France. Est-ce que ça c'est pas un peu de précarité à l'intérieur de la grosse institution radio?
Bah, moi, je suis plutôt d'accord avec ce que disait Olivier, c'est-à-dire que je crois pas tellement nécessaire d'opposer les deux, en fait. Effectivement, je trouve que c'est un truc qu'on a toujours envie de faire en ce moment. Est-ce que le podcast va tuer la radio? Est-ce que la rediffusion va tuer le direct? Est-ce que, mais comme on a effectivement annoncé la mort de la radio à peu près 250 fois depuis sa création, et moi, je trouve que je fais de la radio aussi. Enfin, voilà, je fais de la radio, mais dans un format qui s'appelle un podcast, qui donc est une petite antenne à elle toute seule. C'est-à-dire que la seule différence pour moi entre la radio et le podcast, c'est simplement que le podcast est tout seul. C'est-à-dire qu'il ne vient pas avant quelque chose ou après quelque chose, et que donc la personne qui va l'écouter vient uniquement pour ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir effectivement une promesse éditoriale en soi. Voilà. Il faut que ce soit une raison suffisante pour que les gens viennent vous écouter, et qu'ils ne vont pas tomber sur vous par hasard. Mais après, pour le reste, moi, je fais de la radio. Je fais de la radio d'un format un peu particulier, mais comme je faisais de la radio avant, et comme la radio va se nourrir de ce qui se fait sur les podcasts, parce qu'on s'écoute tous les uns les autres, parce qu'on se nourrit tous les uns les autres, et que pour moi, il n'y a pas de guerre entre la podcast et la radio, et que la maison de la radio peut tout à fait faire du podcast, et d'ailleurs, c'est le cas. Radio France a plusieurs dizaines de podcasts à son actif, certains des podcasts de rediffusion et certains des podcasts natifs comme le mien, mais moi, je ne me vois pas du tout en marge de la maison de la radio, et je ne me vois pas du tout en dehors de l'instant. l'institution, pour reprendre votre terme. Ouais. Voilà, on fait pleinement partie de l'aventure radio. Pour moi.
Et je me demande dans quelle mesure, Céline Asselot, vous réfléchissez quand vous avez réfléchi avec l'équipe de production du quart d'heure à peut-être l'idée que les personnes qui écouteraient le quart d'heure auraient des rituels comme quelqu'un qui écouterait la radio. Parce que je sais que par exemple, les épisodes sortent tous les jours à la même heure, ils durent à peu près le même format, il y a des rituels qui sont mis en place, non, dans ce oui. podcast aussi.
Tout à fait, mais il y a des rituels d'écoute aussi. D'ailleurs, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que nous, on a des pics d'audience à des heures assez précises, et notamment, on en a un le matin à 8h, qui prouve que les gens ont reconstitué une forme de rituel, c'est-à-dire qu'au lieu d'écouter un journal dans la matinale, ils écoutent le quart d'heure à 8h en allant au boulot. Et effectivement, la radio, c'est un média de rituel, vous avez tout à fait raison, le podcast l'est aussi, c'est-à-dire qu'il accompagne, et c'est ça que moi je trouve formidable aussi dans la radio, c'est qu'on accompagne complètement la vie quotidienne des gens, on est complètement inséré dans leur vie. Ils nous écoutent à la machine à café, le matin en prenant leur café, dans le métro, ou le soir en se brossant les dents, quoi. Et que les podcasts recréent aussi certains rituels que qu'on a en écoutant la radio classique. Pour moi, c'est effectivement un peu la même place qu'on a en fait dans la vie des gens.
Et du coup, parce qu'il nous reste 3 minutes, après ou en même temps que vos productions actuelles, donc le quart d'heure, Dépêche et tout ce que vous faites à côté, est-ce que vous avez des projets en cours? Et est-ce que surtout, ces productions, vous comptez les faire sur en podcast ou sur la FM ou sur la radio publique ou dans des radios privées? Est-ce que le choix de ce que vous allez créer s'oriente en fonction de ces différents moyens?
Olivier Minot, peut-être d'abord.
Alors moi j'ai pas de projet particulier parce que je suis un peu la tête dans le guidon avec Dépêche qui me prend beaucoup de temps, et puis effectivement vous avez parlé, je participe à une autre émission sur Radio Canut hebdomadaire qui est une émission plutôt d'écriture le vendredi après-midi. Mais en tout cas, par exemple, justement sur cette émission qui s'appelle Micro-Sieste, qui a lieu le vendredi à 14h, on a fait le choix de pas faire de replay. C'est une émission sans podcast. Pour dire que c'est vraiment une émission de situation, c'est une émission qu'on écrit et qu'on fabrique pour que les gens fassent une pause le vendredi après-midi, fassent la sieste. C'est une émission qui s'appelle Micro-Sieste, donc c'est des textes avec des ambiances sonores et des musiques plutôt smoothie pour guider des auditeurs et des auditrices qui seraient dans un moment de détente le vendredi après-midi après le repas. Et du coup, il y a ce choix de ne pas faire de podcast, et de ne pas faire de podcast, ça offre aussi une certaine liberté. Je pense qu'il y a des propos qu'on permet, enfin moi en tout cas, que je me permets de tenir, que je me permettrai pas de tenir en podcast, parce que je sais que ça peut pas être écouté. Donc on peut avoir une certaine radicalité dans des propos, puisque il y aura pas moyen de vérifier, de dire ah mais il a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Ça reste un petit peu à l'ancienne, une sorte d'onde éphémère qui s'auto-dissout en même temps qu'elle est diffusée.
Et vous, Céline Asselot, j'imagine que le quart d'heure, c'est quand même un projet dans lequel vous êtes lancée sur le long cours.
Ben, je vais reprendre le terme d'Olivier. Moi aussi, j'ai la tête dans le guidon du quart d'heure. Et c'est déjà pas mal. Non, puis on est qu'au début. Enfin, voilà, on a que quelques mois d'expérience, puisqu'on a été lancé. Enfin, le quart d'heure s'est lancé en septembre. Donc, on est au tout début. On a encore beaucoup de choses à expérimenter, à tenter, à améliorer. Donc, c'est déjà pas mal, j'allais dire.
Merci infiniment, Céline Asselot, et merci infiniment, Olivier Minot. Il est exactement 18h, c'est donc on va clore cette troisième table ronde. C'est le troisième volet d'un triptyque. Je pense qu'on a couvert les interactions entre le monde de la radio et le monde des podcasts. Merci beaucoup.
Merci à vous.
on va tout de suite fermer cette table ronde pour passer à la grande fiction collective de fin de journée, de la journée de la radio 2021. Merci infiniment. Bonne fin d'après-midi.
Et on envoie le jingle.
L'FM la plus musicale le matin.
Transistor.
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 La journée de la radio fait son grand retour sur Transistor.
Transistor.
La journée de la radio, c'est le 13 avril sur Transistor, en direct toute la journée.
Vous appelez et vous raflez toutes les 10 minutes le double album de Serge Gainsbourg.
Que vous soyez partisan des ondes.
Est-ce que vous sentez les ondes?
Artisan du podcast.
Elles sont là, elles sont partout.
Oh non, pas ça.
Ou elles sont dans les campagnes, dans les villes, elles sont sur les réseaux sociaux.
Des tables rondes, des créations, des fictions. C'est dans ton poste toute la journée sur Transistor.
La meilleure émission que j'ai jamais faite.
Les deux là au fond, ça vous intéresse pas ce que je raconte? Alors je reprends.
La journée de la radio, c'est le 13 avril sur Transistor.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les...
Transistor.
C'est plutôt FM ou podcast?
Oh, ça dépend des jours.
Eh bien, podcaster maintenant.
Pas mal, non? C'est
Transistor. Et vous écoutez bien le 7h-19h sur Transistor. Nous sommes le 13 avril et c'est la journée de la radio.
À part ton émission que j'ai pas vue d'ailleurs. Hein, t'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi?
Transistor.
On a besoin de libérer un peu
la radio
pour que le podcast fonctionne. Et c'est pas de l'idéologie.
Ce truc fasciste donne envie de vomir.
La journée de la radio, c'est le 13 avril sur Transistor.
Des tables rondes, des créations, des fictions. C'est dans ton poste toute la journée sur Transistor.